Et on commence tout de suite avec Neftali.
Merci beaucoup, Florence. C'est Neftali Bouamoutala pour les comptes de la RTGA. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a plaidé en faveur de la réconfiguration de la MONUSCO pendant que son prédécesseur a demandé pur et simple le départ de la mission onusienne en RDC. Alors ma question, est-ce que Félix Antoine Tshisekedi serait-il devenu l'avocat de la MONUSCO?
D'abord, je voudrais répondre à cette question. Je pense que le président Tshisekedi a été très clair dans son discours. Il dit qu'il a encore besoin de la MONUSCO, la RDC a encore besoin de la MONUSCO, pour travailler sur ce qui reste à faire. Il n'est pas l'avocat de la MONUSCO, loin de là, et c'est pas son rôle. Ce qu'il a expliqué, c'est qu'en tant que gouvernement dans une transition encore à ses débuts, et vous le savez que c'est quand même une transition qui se fait pour la première fois dans votre pays, il a besoin du soutien de la communauté internationale. La MONUSCO a déjà quitté, elle n'est pas dans 20 provinces sur les 26, nous ne sommes présents que dans 6 provinces et nous travaillons pour réduire encore notre présence. Notre rôle n'est pas de rester dans la RDC, n'est pas de garder la RDC comme un enfant sous tutelle, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand on quitte un endroit, on ne revient pas. Et on ne revient pas parce que les choses n'ont pas été bien prises en charge par les autorités, les fonctions régaliennes de l'État, parce que dans tous les pays, il peut y avoir des problèmes. Mais si on est en mesure de les gérer sans que le Conseil de sécurité se mêle, sans qu'on affecte la stabilité dans la région, ça devient des problèmes internes d'un État, bien évidemment. Et donc l'objectif, et que le président a développé, c'est que on a quitté 20 provinces. Si on quitte demain 3 ou 4 provinces, ça veut dire qu'on ne va pas revenir. Et on ferme petit à petit et on quitte. On est, comme vous le savez, il y a un processus qu'on appelle la revue stratégique qui se prépare. Il y a un expert international indépendant qui est venu faire l'évaluation, qui a discuté avec les autorités, qui va présenter son rapport le 10 octobre au Conseil de sécurité. Notre mandat sera revisité en décembre. L'objectif, c'est de voir où on est encore utile pour aider la RDC à se stabiliser définitivement et la mission ferme ses portes. Ce qui compte, c'est d'être sûr que quand on quitte une province, on n'aura pas le feu qui s'allume et on revient. Ça, c'est un échec. C'est un échec pour nous, c'est un échec pour la RDC. Donc on travaille main dans la main avec les autorités, avec le gouvernement, pour renforcer les fonctions régaliennes de l'État. Parce que qu'est-ce qui soutient la stabilité dans un pays? C'est une armée professionnelle, c'est une police professionnelle qui respecte les principes et les droits des citoyens, c'est une justice qui rend la justice qui est indépendante, et c'est l'administration qui veille à la collecte de l'impôt, à gérer le pays. Le reste, les privés peuvent le faire dans n'importe quel pays. Donc, ce sont ces fonctions-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des zones où on ne pouvait pas rentrer parce que c'était occupé par des groupes armés. Il n'y en a plus aujourd'hui. Mais il y a quand même encore des groupes armés qui déstabilisent certaines zones de la RDC. C'est réduit. Nous avons, même quand on parle de 6 provinces, en fait, le conflit, il est dans 3. Il est dans l'Ituri, il est dans les deux Kivus. Mais même dans le Tanganyika et dans les Kasaï, c'est des groupes armés qui sont en phase, qui sont prêts à déposer les armes si on arrive à bien les gérer et les intégrer. Donc c'est ça que le président a souligné. Nous avons encore besoin de l'appui de la communauté internationale à travers la présence d'une mission de maintien de la paix pour avancer ce processus et tourner la page du conflit à travers toutes les autres mesures que lui-même et son gouvernement sont en train de prendre au niveau régional, au niveau national, à travers les programmes qu'ils ont lancés. Et nous sommes là pour appuyer, pour apporter un soutien dans le cadre de cette phase de transition. Et j'espère qu'elle sera la plus courte possible, mais s'assurer qu'elle soit stable et qu'on tourne la page définitivement.
Nous allons prendre une question ici sur la gauche.
Merci. Moulegwa pour RFI. Madame Leila, est-ce qu'au bout de 5 ans, les massacres se répètent à Beni, se revenez plus dans d'autres provinces, mais là vous êtes concentrée. Et c'est enfin un échec pour l'ONU. Vos efforts ont-ils prouvé leurs limites? Et pourquoi est-ce que c'est si difficile d'endiguer la menace, surtout que toutes les violences, ça se passe dans les mêmes localités, dans les mêmes territoires et toujours avec la même stratégie?
D'abord, je pense qu'il faut soutenir, il faut comprendre une chose. Pour pouvoir endiguer la menace, il faut savoir identifier les causes profondes. Il faut être sûr que, vous savez, la guerre peut provoquer encore plus de guerres. Elle peut générer d'autres souffrances. Ce n'est pas par la guerre qu'on règle les problèmes si on n'est pas sûr que les moyens qu'on met vont vraiment régler le problème de fond. Quand on parle dans la zone de Béni, vous avez ADF, un groupe armé étranger. Et vous avez des groupes Maïmaï, vous avez des tensions communautaires, vous avez l'Ebola, vous avez des populations qui ont subi beaucoup de conflits, de tensions, etc. Donc le travail que nous le faisons d'abord avec le gouvernement, nous le faisons pour nous assurer qu'on règle les problèmes qui peuvent être réglés à travers ce qu'on est en train de faire avec les communautés, avec les notables. La réconciliation communautaire est très importante. Lorsque vous isolez la population de la menace, vous rendez la menace facile à éradiquer par la force. Mais lorsque la force vient sans savoir qui frapper, vous pouvez provoquer encore d'autres crises. Je pense que ce qu'on doit faire à l'Est, et pas seulement à Béni, parce qu'il n'y a pas que Béni, il y a Djougou, par exemple, où il y a de la violence. Il y a dans la zone de Kichanga, Rutshuru, Masisi, Walikale, où les groupes armés sont devenus plutôt de la criminalité. Personne n'a un agenda politique dans ces zones. Personne n'est soutenu par un parti politique pour aller faire la guerre en RDC. C'est des groupes armés, soit des milices, soit des groupes étrangers, soit des groupes plutôt criminels, groupes gangs qu'autre chose. Ce qu'il faut, c'est de pouvoir utiliser la justice, réconcilier les communautés, et utiliser la force armée. Ce n'est pas uniquement faire la guerre. Faire la guerre ne va pas régler les problèmes. On règle les problèmes quand mener des opérations militaires sont combinées avec le développement, avec la réconciliation, avec la justice, avec tout ce travail, séparer les enfants qui sont utilisés par ces groupes, aider les populations, par exemple, contrôler les mines, parce que souvent, ces gens se nourrissent aussi du trafic minier, ils se nourrissent du trafic, d'autres trafics. Donc, c'est des opérations complexes, mais nous y travaillons, et c'est pas la MONUSCO qui va aller finir une guerre, et puis, allez, tenez la clé, nous on part, c'est fini, la guerre, les problèmes sont terminés. Il faut identifier les causes profondes. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de travailler sur établir des relations de paix avec les voisins, faire en sorte que ni la RDC est un havre de paix pour les groupes armés étrangers, ni les voisins sont un havre de paix pour des groupes congolais, ça va aussi réduire l'espace de ces groupes. Faire en sorte que les populations ne soutiennent pas ces groupes, vont appeler les militaires pour dire « ils sont là, venez les chercher ». Faire en sorte qu'on contrôle les sources de richesse de ces groupes. Donc il y a un travail qui est holistique et souvent on réduit ça, on va les finir, ils sont là-bas, allez les finir. C'est pas ça. Des groupes se reconstituent depuis 20 ans en RDC. Combien sont morts et d'autres il faut travailler sur les causes profondes, on y travaille. L'action militaire fait partie et nous nous préparons avec la RDC parce que nous ne sommes pas une armée d'occupation. Nous sommes ici pour appuyer la RDC. C'est ça notre rôle. Nous appuyons la RDC et nous travaillons avec les initiatives que prendra le gouvernement. Ça fait neuf mois qu'il y avait cette préparation d'avoir des autorités au niveau du ministère de la Défense, au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous avons maintenant cette possibilité de discuter ensemble, de travailler et nous allons y faire le travail, mais de façon holistique, de façon à ce qu'on ne rate pas la démarche de riposte. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Nous allons prendre une question ici sur la droite.
Jaime Moloé du magazine Actu 30. Madame Leïla Zerouyé, je reviens sur le discours du chef de l'État à l'ONU. Le chef de l'État dit, je reprends ces mots, « Mon pays a encore besoin de la MONUSCO, mais d'une MONUSCO réadaptée à la réalité, c'est-à-dire non pléthorique, bien équipée et dotée son mandat adapté à l'instar de la brigade d'intervention qui nous avait aidés à combattre le M23. » Ma question est de savoir, madame, qu'est-ce que vous sous-entendez par cette incise du chef de l'État? Et est-ce que la MONUSCO s'est-elle écartée de son professionnalisme? Et aussi, est-ce que vous êtes déjà mis d'accord sur le nombre exact des troupes de casque bleu en RDC?
J'ai entendu, comme vous, j'étais dans la salle quand le président a fait son discours. Ce que je voudrais souligner, vous le savez, l'année dernière, nous avons fermé 8 bureaux. Nous avons déjà réduit les troupes, c'est écrit dans le budget. On a déjà fait partir la force spéciale qui était au sud Kivu, égyptienne. Les deux bataillons, un pakistanais et un indien, sont sur le départ, sont en train de quitter. Nous avons fait partir une FPU indienne et nous avons coupé 800 postes, comme vous le savez. C'était l'année dernière, tout le monde nous interpellait pourquoi on coupe des postes. Et pourtant, on en a coupé. Cette année, nous avons par exemple le Conseil de sécurité nous autorise à avoir 1600 troupes. Avec le départ des deux bataillons, nous serons à 1300. Donc déjà 300 moins que ce que le Conseil de sécurité nous autorise.
Madame Zéro dit 16 000.
Oui, j'ai dit 16 000.
Non, vous avez dit 1600.
Non, 16 000, pardon. Non, 16 000. 16 000. Et sur les 16 000, on n'a que 13 000 aujourd'hui. Donc, on a déjà 3 000 en moins. Donc, nous sommes dans une reconfiguration. Comme j'ai dit, nous nous sommes concentrés dans 6 provinces. Nous discuterons avec le gouvernement. Nous travaillons pour stabiliser les Kasaï et le Tanganyika. Si les choses se passent bien, nous pouvons aussi fermer nos bureaux dans ces provinces. Si la situation de FRPI, de la violence à Djougou se consolide en Ituri, nous allons aussi fermer. Nous ne sommes pas dans une période d'expansion. Nous sommes dans une période, justement, parce que les États bailleurs ne veulent plus payer pour le peacekeeping, comme vous le savez. Nous avons chaque année des réductions budgétaires depuis 2011, en fait. Après les élections de 2011, on a commencé le drawdown, comme on dit. On était à 22 000 troupes, on est à 13 000. Les staffs, par exemple, on était presque à 5 000, on est aujourd'hui à 2 000, 2 000 Congolais et 600 internationaux. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Moi-même, j'ai demandé qu'on ne touche pas le budget pendant au moins cette année pour laisser la capacité, nous permettre de consolider dans les Kasaï, dans le Tanganyika, etc. Donc, on n'est pas dans une phase d'expansion et on s'inscrit dans la démarche que souhaitent les autorités, parce qu'après tout, c'est leur décision. La reconfiguration, elle se fera. Maintenant, quel rôle on donnera aux troupes, ce n'est pas moi qui décide. C'est le Conseil de sécurité. C'est le Conseil de sécurité qui a donné le mandat offensif à la FIB. C'est le Conseil de sécurité qui décidera qu'est-ce qu'il faut faire du reste des troupes. Quel est le mandat, comment il va se consolider. Et donc il y a aussi le travail de stabilisation politique, le travail de protection des civils, la présence d'un COB, par exemple, la présence de troupes dans une zone peut permettre aux gens de venir se réfugier s'il y a une menace, peut permettre à des civils d'aller faire des enquêtes, à des journalistes d'aller voir. S'il n'y a pas ce genre de travail et que tout le monde va à la guerre, on n'aura pas aussi ce travail de consolidation, de contact entre les civils et les populations, le travail de consolidation, de réconciliation. Donc il y a des fonctions qui doivent être laissées à chacun pour permettre à chacun de faire son travail. Et nous travaillerons en fonction de ce que nous dira le Conseil de sécurité. La mission ne s'est pas écartée de son mandat. La mission est mandatée pour respecter ce que le Conseil de sécurité lui demande. Le jour où le Conseil de sécurité lui demande de fermer, nous fermerons. Le jour où le Conseil de sécurité nous demande de prendre tous les troupes et de les mettre à Béni, on les mettra à Béni. C'est une décision des États membres du Conseil de sécurité.
Oui, monsieur.
Quel est le mal de l'Agence congolaise de presse? Madame, depuis 2010, on est passé de la MONUC à la MONUSCO. Je voudrais que vous puissiez être un peu plus précis. Quelles sont les causes profondes de cette déstabilisation de la RDC? Si vous pouvez être un peu plus précis.
Vous savez, la déstabilisation, elle peut avoir plusieurs causes. Ce qu'il faut faire, c'est que, vous savez, la meilleure façon de lutter contre une menace, c'est d'abord d'identifier moi, en tant que nation congolaise, qu'est-ce que je peux faire pour renforcer mon front. Ça, c'est la première chose. La déstabilisation est facile lorsque vous avez des gens qui ne sont pas sécurisés, lorsque vous avez des gens qui ne croient pas dans leurs institutions, lorsque vous avez des gens qui sont facilement manipulables. Les tensions peuvent exister, déjà en interne. Après, vous avez bien évidemment la dimension régionale de conflit, parce que les communautés sont des deux côtés de la frontière. Parfois, ils appartiennent aux mêmes communautés. Vous avez des tensions entre, par exemple, quelque chose de très important, et vous, en tant que journaliste, vous devez y travailler. Beaucoup de ces conflits sont liés à l'accès et à l'utilisation de la terre. Entre cueilleurs-chasseurs qui vivaient dans la forêt, qui se nourrissaient de la forêt, que la forêt ne nourrit plus aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'animaux, il n'y a pas suffisamment... Les gens vivaient de la forêt, ils ne cultivaient même pas. Mais ceci ne peut plus. Les animaux ne sont plus en présence suffisante pour nourrir ces gens. Donc ils sortent, comme l'étoile, les pygmées, qui sortent et qui ne savent pas encore faire de l'agriculture, qui ne savent pas faire de l'élevage, qui sont parfois rejetés par les communautés à l'intérieur, qui sont des agriculteurs ou qui sont des éleveurs. Après, vous avez les tensions énormes que j'ai vues de mes propres yeux, par exemple à Menembwe. Vous voyez les communautés, que ce soit les Banyamulenge, que ce soit les Bashi, que ce soit les Babembe. Vous les voyez, ils sont dans la même difficulté. Ils sont isolés parce qu'il n'y a pas d'accès. Ils sont sur le toit de la montagne. Ils n'ont pas de route. Ils ont des difficultés. Mais pourtant, ils se font la guerre. Pourquoi? Parce que les uns font de l'agriculture, les autres font de l'élevage. Les vaches passent sur mon agriculture, donc je suis fâchée, donc je me bagarre. Si on crée justement des espaces où chacun, dans le respect de la loi, a accès aux richesses qui sont énormes, mais qui ne sont pas exploitées de façon à ce que chacun ait sa part. Donc, travailler sur cet accès va stabiliser beaucoup de zones. Travailler sur de régler, parce qu'il y a des tensions entre, par exemple, le droit coutumier de la propriété, le droit des coutumiers historiques, et puis le droit moderne. Vous venez avec un acte de propriété, l'autre, il dit, cette terre, elle appartient à mes ancêtres. Il y a des tensions. Donc cet accès-là est à l'origine de beaucoup de conflits internes qui peuvent dégénérer. Après, bien évidemment, il peut y avoir de la manipulation. Celui qui veut utiliser les richesses naturelles, c'est facile parce que il y a les tensions à l'intérieur des communautés. Donc ça, c'est un travail à faire. Un autre travail à faire, c'est que l'État congolais contrôle ses richesses naturelles. Que ce n'est pas des Maïmaï qui viennent exploiter des mines, ce n'est pas des gens qui viennent toucher à des richesses qui doivent être exploitées de façon réglementée. Les gens payent leurs impôts et les ressources reviennent à la communauté. Quand vous êtes dans le village, que vous n'avez pas une maison, que vos enfants ne vont pas à l'école, que vous n'avez pas, la stabilité ne vous intéresse pas, parce que vous n'êtes pas protégé, vous ne bénéficiez pas. Donc il faut travailler, c'est ce que nous voulons faire par exemple dans les Kassai, dans le Tanganyika, c'est de travailler avec les gouverneurs, avec les autorités locales, pour voir comment on peut appuyer des programmes de développement et de stabilisation pour ramener les communautés, au lieu de se bagarrer, à avoir les mêmes objectifs, avoir l'intérêt à la stabilité lorsqu'il y a cette stabilité qui se construit, c'est plus facile de faire face à d'autres menaces qui peuvent être extérieures, qui peuvent être d'intérêt autre. On peut faire plus face à ça. Et puis, il y a ce travail de réconciliation régionale que le président Tshisekedi appelle de ses voeux. Il est parti dans les pays voisins. Comme vous le savez, il essaye lui-même de réconcilier d'autres pays. Donc ça aussi, ça sert la stabilité. Parce que non seulement on travaille sur la stabilité en interne, on travaille aussi la stabilité au niveau régional pour faire en sorte que tout ce qui peut alimenter les conflits. Parce que quand on fait du développement, vos enfants vont à l'école. Vous êtes pauvre, mais vous pouvez envoyer votre enfant à l'école parce que c'est gratuit. Vous pouvez soigner vos enfants. Vous avez plus intérêt à ce que la stabilité s'installe. Lorsque vous n'avez rien à perdre. Donc l'instabilité, vous vivez dedans. Lorsque vous êtes déplacé, lorsque vous êtes attaqué, donc c'est ça. Travailler sur la stabilité, c'est d'abord travailler sur les sources d'instabilité interne, consolider avec les menaces qui peuvent venir de l'extérieur et identifier les menaces qu'il faut cibler par la force, par l'armée, les menaces qu'il faut cibler par la justice, arrêter les gens, les faire juger, si c'est des gens qui sont accessibles, qui occupent des fonctions et utilisent ces fonctions à des fins de déstabilisation. Régler les problèmes avec les voisins, développer les pays, c'est une démarche holistique. Souvent, les gens pensent, on va faire la guerre et on va régler les problèmes. La guerre, c'est une pression qui s'ajoute à d'autres actions qui permettent à ce qu'on construise la paix. On ne construit pas la paix juste en alimentant des feux de guerre. La guerre, c'est une pression qui s'impose sur ceux qui ne veulent pas déposer les armes, sur ceux qui continuent à déstabiliser, mais il faut aussi que la justice fasse son travail, il faut que le développement s'installe, il faut que ceux qui représentent l'État se comportent de façon à servir les intérêts de la nation, il faut que l'engagement au niveau international se fait dans l'intérêt de la nation, et vous savez, les relations internationales sont liées aux intérêts économiques de chaque pays, aux intérêts stratégiques. Si je défends mes intérêts, je m'inscris et chacun peut bénéficier des relations de paix, mais aussi d'échanges entre États. Donc c'est ça le travail qu'on essaye de faire. Je pense personnellement qu'il y a une chance pour la RDC de s'inscrire dans une logique de paix, de construire la stabilité d'abord au niveau interne, quand vous avez la maison qui brûle à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vous occuper du voleur qui passe dans la rue. Vous devez d'abord éteindre le feu, n'est-ce pas? Une fois que vous éteignez le feu, vous pouvez contribuer à ce que le voleur là qui est dans la rue aussi, on l'arrête et on s'en occupe. Donc je veux que les Congolais comprennent que la paix, c'est une démarche constructive et qui est globale. Ce n'est pas une action. Ce n'est pas comme si on va dehors et on va chercher quelqu'un qui nous dérange, on en finit et ça y est. La paix, elle doit d'abord se construire chez nous, à la maison, dans les cœurs, entre les Congolais, réconcilier les Congolais. Les Congolais, celui qui vit dans la montagne, celui qui vit dans la plaine, celui qui fait l'agriculture, celui qui fait l'élevage, ils doivent déjà, eux, entre eux, avoir la loi qui les répartit et qui règle les conflits entre eux. Voilà comment je vois personnellement la stabilité. La stabilité, c'est un travail qui est beaucoup plus complexe qu'une action. On va, on fait ça et ça y est. Oui, il faut avoir une armée solide, il faut être en mesure de se défendre lorsqu'on est attaqué, il faut pouvoir sécuriser la population contre la menace interne et il faut rassurer la population sur l'avenir et le devenir de leur progéniture.
Alors, c'était le moment dans cette conférence d'avoir la question nicaise.
Merci, Oujoudi. Vous êtes beaucoup plus gentil pour moi. Bon. Madame Leïla, en vous entendre, vous avez vraiment beaucoup expliqué des choses. Vous avez dit quelque part dans votre propos liminaire que vous ne voudriez pas qu'après le départ de la MONUSCO, qu'il y ait encore des tensions, l'instabilité en DRC. Mais je suis en train de me poser la question, si vous savez qu'il y a une tension interne, mais à laquelle vous ne faites pas attention, c'est-à-dire il y a une partie de la population qui se plaint, les uns contre les autres. Si le docteur Mukwege a plaidé pour un tribunal spécial de la RDC, moi je vous poserai la question. Est-ce que Mme Leila et les Nations Unies, vous pensez à réconcilier les Congolais, par exemple, autour d'une table, que les Congolais se parlent pour qu'il y ait ce qu'on peut appeler une commission vérité, réparation et réconciliation?
Alors, vous savez, je suis juge, vous parlez de choses qui me vont droit au cœur. Je voudrais souligner une chose. J'ai moi-même, en ce qui concerne les Kassai, j'ai dit que nous devons d'abord faire en sorte que les groupes armés ou les milices qui ont endeuillé les Kassai doivent être notre objectif pour mettre fin à cette menace qui trotte dans la rue, parce que des gens qui ont été impliqués, je dis toujours que ceux qui ont appris à manier une arme, ils ne vont pas mendier dans la rue. Donc il faut savoir les gérer pour que non seulement ils ne restent pas dans la rue, mais aussi qu'ils ne reviennent pas à leurs mauvaises habitudes. Donc il faut une démarche qui prend en charge cette menace. Comment on peut régler des problèmes? Vous savez, quand vous allez faire la guerre contre un ennemi étranger, vous gagnez ou vous perdez, vous rentrez chez vous. Quand la guerre est chez vous, les douleurs sont là, les souffrances sont là. Ceux qui ont tué et ceux qui ont perdu des êtres humains chers, ceux qui ont vu l'horreur au milieu de la nuit, ceux qui ont perdu un bras, une jambe, ceux qui ont perdu la raison, ceux qui ont perdu leurs enfants, ceux qui ont perdu tout ce qu'ils ont dans des endroits où les gens sont très pauvres, quand vous perdez quelque chose, toute une vie ne vous permettra pas de le récupérer. Donc ce n'est pas facile de régler les problèmes. Vous tuez quelqu'un, il y a toute une famille derrière lui qui se réveillera parce que chacun va penser que lui, il est la victime. Et donc dans ce genre de conflit, et je l'ai vécu dans mon pays, je sais ce que c'est, dans ce genre de conflit, vous devez avoir une démarche qui amène à la réconciliation. La réconciliation entre celui qui a commis le crime et qui celui qui en a été la victime, et parfois les barrières ne sont pas claires. Parce que j'ai été victime de vous, mais vous, vous avez été victime d'elle qui est avec moi. Et ainsi de suite. Donc c'est des souffrances, c'est comme quelqu'un qui voit ses intestins se bagarrer. Donc c'est des souffrances généralisées. Et donc, pour pouvoir travailler sur ça, c'est un travail de titan. Mais c'est possible, parce que dans les communautés, il y a le sens général de la justice. On peut n'avoir jamais été à l'école, mais on sait qu'est-ce que c'est l'action juste et l'action injuste. Et quand je sais que l'action qui a été menée, elle a pris... Je vous fais rire? Vous ne me prenez pas au sérieux? Je dis des bêtises? Je m'excuse si je n'ai pas réussi à vous convaincre. Mais j'essaye simplement de dire que c'est un travail à faire avec les communautés, à travers la justice, à travers le développement, à travers la réconciliation ne peut pas commencer. Et ce n'est pas parce que des gens dans un pays on fait un choix d'une justice transitionnelle qui était adaptée à leur pays, que cette même démarche va marcher ailleurs. Il faut consulter les communautés et voir qu'est-ce qui peut les apaiser. Quel type de justice transitionnelle les gens qui ont souffert de Kamuina Nsapu, de Banamura ou de même des militaires congolais qui étaient déployés dans cette zone, qu'est-ce qui les apaisera? Comment on peut tourner la page du conflit? Comment on peut ramener ceux qui ont tué et ceux qui ont des victimes à tourner la page et à vivre ensemble parce que c'est la meilleure option et parce qu'ils ont été convaincus, pas parce que nous on a décidé à leur place dans un endroit lointain, mais parce qu'on travaille avec les communautés. Mais pour pouvoir commencer ce travail, vous devez déjà réintégrer les gens dans leur... Parce que les gens sont déplacés. Ils ont perdu leur maison. Ils n'ont pas de travail. Leurs enfants ne vont pas à l'école. On va leur parler de réconciliation comme ça dans la rue. On doit d'abord faire quelque chose pour tout le monde, réamener les populations dans leur village, leur donner de l'espoir, leur donner des terres où ils peuvent travailler. Après, on travaille sur les douleurs, sur les souffrances, sur les blessures. Et on les consulte, et on discute avec eux. Qu'est-ce qui est bon pour eux ? D'avoir un tribunal international, d'avoir une justice traditionnelle, d'avoir la justice congolaise renforcée qui rend justice et qui identifie. Qu'est-ce qui est le plus adapté à ce qu'ils veulent ? Et on travaille avec eux et on fait ce choix en tant que Congolais pour apaiser, pour tourner la page, pour que les gens ne reviennent plus à ces pratiques et pour que les causes profondes, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours travailler sur les causes profondes. Les causes profondes qui ont généré ça ne reviennent plus. Ce qui s'est passé, on était dans une période électorale. Il y avait de la manipulation politique, il y avait de la manipulation économique et communautaire. Il y avait beaucoup de choses qui ont généré cette crise. Les Kassai n'ont pas de tradition de groupes armés, de conflits comme dans les Kivu, mais il y a eu une mauvaise gestion et des manipulations qu'il faut aujourd'hui apaiser. Il faut aider les communautés à avoir de l'espoir. Vous savez, quand vous avez de l'espoir pour vos enfants, vous pouvez pardonner. Quand vous restez dans le désespoir, vous ne pardonnez pas. Le pardon, ce n'est pas quelque chose... On dit qu'on pardonne et on tourne la page quand je suis en position de force. Quand je sens que j'ai été réhabilité en tant que victime, je peux pardonner. Parce que le pardon existe chez l'être humain et parce qu'on oublie, l'oubli existe. Mais on doit être en position de le faire. Si je suis contraint, je me vengerai à ma manière. Contre l'État, contre l'autre, contre tout le monde. Donc c'est comme ça que je vois ce travail qu'une mission de maintien de la paix peut aussi amener des populations qui sont dans les tensions à regarder dans la meilleure direction pour tourner la page. Et vous savez, tous les pays, les grands pays d'aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez que les Américains ont eu une guerre civile qui a été ravageuse ? Est-ce que vous vous souvenez que les Européens ont eu des guerres terribles ? Ils ont eu des rivières de sang entre les uns et les autres. La guerre de 100 ans entre les Français et les Britanniques, aujourd'hui, c'est des amis. Entre les Allemands et les Français. Ce qui s'est passé en Italie, ce qui s'est passé sous Franco en Espagne, ce qui s'est passé... Vous avez... C'est des pays qui sont dans la paix aujourd'hui. Ils parlent de ça comme de l'histoire. Nous voulons qu'on donne notre Afrique aussi, on fait la même chose. Qu'on tourne cette page de la guerre où chacun regarde l'autre comme un ennemi, alors que nous sommes les mêmes et nous avons intérêt tous à construire la paix dans notre continent pour avancer, pour que nos petits-enfants seront comme les Européens, comme les Américains, comme les Canadiens. Pourquoi pas ? C'est impossible. On peut le faire. Dans un seul pays, on ne parle que de la guerre. Pourquoi ? Pourquoi on veut qu'aller éliminer l'autre ? On peut travailler pour celui qui a besoin d'être corrigé, on le corrige. Celui qui a besoin d'être emprisonné, on l'emprisonne. Celui qui a besoin d'être remis dans ses droits, on le remet dans ses droits. C'est un travail que nous devons faire ensemble et la presse peut jouer un rôle positif. Au lieu d'attiser la haine, on attise la paix et on attise la réconciliation et on travaille sur la réconciliation. Votre pays ne sera jamais stable si cette réconciliation d'esprit entre vous... Moi, je ne sais pas faire la différence entre un Hyundai et un Nandé. Je ne sais pas la faire. Ils sont tous des Bantous. Je leur pose la question, je leur dis pourquoi, quelle est la différence, l'accent. On ne prononce pas de la même manière quand on parle le Swahili. Mais les raisons sont économiques. Les raisons, c'est pas parce qu'il y a l'accent, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on est différent physiquement, non. Parce qu'il y a des intérêts économiques qui manipulent les pauvres gens. Donc il faut travailler pour que les gens soient conscients que la paix, c'est ça leur futur.
Symphorien.
Merci pour la parole, Symphorien Katumba. Pour les comptes de l'explorateur, Madame Leïla, soyez la bienvenue. Et j'ai une préoccupation de curiosité. Vous avez évoqué les quatre types, vous dites, vous êtes rencontrés avec le responsable de la Banque mondiale. L'ARDC, bien beau, on ne peut pas dire que vous êtes maintenant la représentante de l'ARDC à travers ce que vous avez négocié. Est-ce qu'en termes de tout ce que vous avez négocié, qu'est-ce que l'ARDC a espéré gagner en matière d'avoir les chiffres chiffrés dans tel secteur tel que vous avez négocié et parlé pour la Banque mondiale? Je vous remercie.
Vous savez, moi je fais le plaidoyer pour la RDC pour dire il y a de l'espoir, il y a des opportunités, venez créer cet espace. Ce que j'ai demandé à la Banque mondiale, je le demande en fait depuis longtemps, j'avais rencontré le vice-président ici quand il est passé, je l'ai rencontré encore à New York, je devais même aller à la Banque mondiale à Washington, mais comme le président s'est déplacé, je n'ai pas voulu donner l'impression que je suis dans ses pattes ou que je viens, vous savez, après la spéculation et les gens, chacun va monter. Donc je me suis abstenue, je ne suis pas partie, mais j'irai la prochaine fois quand j'irai pour le renouvellement du mandat, je compte aller à la Banque mondiale. Pourquoi la Banque mondiale? Parce que la Banque mondiale est un partenaire de la RDC. Nous voulons les mobiliser pour investir dans les Kasaï, dans le Tanganyika, parce que ce sont des zones oubliées où il y a besoin de faire du développement pour stabiliser. Il y a des chances que si on arrive à avoir, par exemple, avoir des routes, aider, par exemple, à encourager le développement de l'agriculture, de l'élevage. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est le représentant du PAM qui m'a dit. Dans cette zone, en parlant des Kasaï, on peut faire 3 à 4 récoltes par an. 3 à 4 récoltes par an et il y a des gens qui meurent de faim dans ces zones. Donc si on arrive à créer une dynamique positive pour créer le développement, pour permettre aux gens de produire, mais aussi de pouvoir vendre leurs produits, parce qu'il faut, moi quand je vois des femmes avec des kilos sur la tête et qui font 20 kilomètres par jour, pour pouvoir vendre 2 tomates, ça me fait mal au cœur. Donc c'est ça qu'il faut, c'est de créer les opportunités de développement, mais aussi d'écoulement de la marchandise, de permettre à ce que plus de gens achètent parce qu'ils ont du travail, donc ils vont acheter des produits, les ramener à la maison, ce qu'ils peuvent se permettre. C'est ça une dynamique positive. Nous voulons que la Banque mondiale s'investisse dans ces projets, nous permettent d'avancer, parce que vous savez, une mission de maintien de la paix n'a pas de programme de développement. Nous, notre rôle, c'est de pousser ceux qui ont les moyens à venir investir dans la RDC. Je l'ai fait avec la Banque mondiale, je l'ai fait aussi avec le Fonds pour la consolidation de la paix. D'ailleurs, le directeur du Fonds va venir en janvier, il a promis de venir en janvier parce qu'on aura le mandat d'ici là, on aura plus de clarté et pour aussi j'ai insisté pour qu'on ait cet appui dans les Kasaï et dans le Tanganyika. Je cible ces 3 provinces parce qu'en réalité on n'a pas, il n'y a pas de dimension des mines, il n'y a pas de dimension régionale, c'est des milices congolaises. C'est des problèmes de développement et de réconciliation communautaire. C'est vraiment des choses où on peut réussir rapidement si on fait les choses correctement. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à y aller et j'encourage la Banque mondiale et les autres institutions financières. J'espère que j'aurai le plaisir d'encourager d'autres aussi. Je vais partir en Grande-Bretagne, en France, et aussi je vais aller à Bruxelles pour rencontrer et le gouvernement belge et aussi l'Union européenne pour encourager justement, surtout particulièrement l'Union européenne qui a un programme ici, pour les encourager à nous appuyer la RDC dans ce processus de consolidation de la paix, de renforcement des capacités, de nous permettre à la RDC de sortir de cette image de crise, conflit, menace, et de dire la RDC, je n'arrête pas de le répéter, est une opportunité pour toute la région.
Madame, peut-être la dernière question d'ailleurs.
Evie pour le compte de la radio-télévision La Louange et lesnews.cd. Madame, la question de la réduction de l'effectif de la MONUSCO m'intéresse encore. Hein. Je voulais savoir, puisque vous, une fois quitté une province, vous ne retournez plus, sur base de quoi la MONUSCO se focalise pour savoir qu'il faut maintenant quitter et qu'après nous, on ne parlera plus de conflits, des crises.
Ce n'est pas la MONUSCO qui décide. La MONUSCO, souvent, décide sur la base de d'abord un budget qui lui est alloué. Si les bailleurs de fonds coupent le budget, on est obligé de réduire les capacités. Mais ce que nous essayons de faire, c'est que tout en étant sous cette pression de coupe budgétaire, nous essayons de ne pas fermer un endroit où il y a encore une menace sécuritaire. Pour nous, s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de groupe armé, on peut se retirer en espérant que la situation ne dégénère pas. Notre objectif, c'est de travailler pour stabiliser une région, pour ne pas revenir. Parce que si vous partez et après la situation explose et vous revenez, c'est comme si vous recommencez à zéro. Parce que vous devez regagner la confiance des gens. Vous devez vous adresser à des choses qui encore, parce que pour revenir, ça veut dire que la situation a empiré. Donc, il faut éviter ça. C'est pour ça, il faut qu'on s'assure que, par exemple, si on travaille sur ces trois provinces, si on renforce les capacités de la police, et on veut travailler avec le ministère de l'Intérieur pour renforcer les capacités de la police, déployer la police dans ces zones, parce que ce n'est pas l'armée qui va stabiliser. L'armée fait la guerre. C'est la police qui stabilise, c'est la justice. Donc, renforcer la justice, renforcer la police, être sûr que vous avez un système pénitentiaire qui garde les criminels, pas on les rentre aujourd'hui, le lendemain on ouvre la prison et ils sortent. Faire en sorte que les gens sont sécurisés parce que la criminalité peut être endiguée. Si, après, il y a aussi une présence militaire, si jamais il y a une menace plus grave, c'est l'armée qui intervient. Donc si on arrive à travailler pour sécuriser, on peut quitter, on est rassuré qu'il n'y aura pas de relapsant de conflit. Nous, on travaille, on informe le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité décide du sailing et décide du mandat. Après, c'est l'Assemblée générale, la cinquième commission, qui dit combien on donne d'argent dans ce pays et où il faut couper. Donc, on travaille pour justement ne pas précipiter les coupes, pour consolider. On ne peut pas quitter en deux semaines un endroit et on dit on a consolidé. On a besoin à chaque fois, on est resté dans ce pays 20 ans. Le pays était partout, le conflit était dans toute la RDC. Toute la RDC était en conflit. Aujourd'hui, on parle de 6 provinces. Et même les 6 provinces ont fait la différence en 3 et 3. Et même les 3 qu'on considère encore sous menace ont fait la différence entre 1 et 2. Donc on est quand même dans une période où on essaye, vous savez, presser et contenir petit à petit la menace jusqu'à la réduire à zéro. Lorsque la menace n'est plus que dans quelques endroits, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, le gouvernement congolais peut s'en occuper. Il n'a pas besoin de l'appui d'une force de maintien de la paix. Bien sûr, vous avez 6 provinces, il faut travailler pour que ça devienne 3. Les 3 deviennent 2, les 2 deviennent 1, et puis un jour, oh, vous n'avez plus besoin. Vous avez des pays où les missions ont quitté, ne sont pas revenues. La Côte d'Ivoire, il y avait une mission, elle a fermé. Elle a fermé il y a 4 ans, elle n'est pas revenue. Le Tchad, il y avait une mission, elle a fermé, elle n'est pas revenue. La Sierra Leone, l'Ibéria. Donc, on peut aussi espérer que la RDC se retrouvera un jour sans mission de maintien de la paix, avec une présence des Nations Unies qui travaillent en tant qu'agence programmatique, l'UNICEF, le PNUD, et puis c'est l'État qui assure la paix et la sécurité, qui assure le maintien de l'ordre et qui gère le développement. Et nous l'espérons sincèrement pour la RDC. Nous ne sommes pas là pour nous maintenir et pour rester en RDC, parce que c'est un échec pour nous si on reste éternellement. C'est un échec pour la RDC, c'est un échec pour les Nations Unies. Notre objectif, c'est de pouvoir tourner la page.